Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.redem.org. C'est l'heure de retrouver Anne pour la conversation autour du cinéma. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, bonjour nos chers auditeurs. Est-ce que tu vas bien Damien, toi ?
Ça va bien et toi ?
Oui, bah oui, moi retrouver les auditeurs c'est un vrai plaisir, un petit bonheur, c'est notre petit bonheur à nous. Et ben oui, donc... Bah, écoute, avant de parler des films, je vais rajouter quelques petites choses. La semaine dernière, j'avais effleuré le Festival de Cannes. Et là, maintenant, bah, le Festival de Cannes, ça partait le 17 mai. Ça va jusqu'au 28 mai, hein, le mardi 17 et jusqu'au samedi 28. 75e édition. Donc, j'avais parlé des artistes qu'on attendait, bon, les plus connus, en fait. Hein, tout le monde les connaît. En fait, alors, certains sont là... parce qu'ils représentent un film, et puis d'autres sont là parce qu'ils viennent au Festival de Cannes, qui est quand même, je rappelle, le festival de cinéma le plus important du monde, et qui voilà, et qui ça se passe toujours très bien. Enfin, il y a eu évidemment avec le virus, il y a eu un petit arrêt. Voilà, il y a eu un festival, mais sans personne. Il y avait personne dans la salle. Il y a eu quand même, bon, c'était un petit peu les films décalés, etc. On a connu Damien, n'est-ce pas, les films décalés de plusieurs mois.
Tout à fait.
Mois,
il y en a eu beaucoup, oui.
Ah oui, il y en a eu beaucoup. Donc là, on va reprendre, j'espère, un petit peu le cours des choses. Encore que, il y a encore quelques dates quand même qui sont un peu difficiles là à placer. Ben oui. Oui, ça reprend à peine, hein, donc j'avais dit, donc Marion Cotillard, elle représente le film Frères et Sœurs, le film d'Arnaud Desplechin. Alors Tom Cruise, alors lui j'avais dit, hein, il va venir présenter Top Gun Maverick. Donc là, c'est une grosse surprise que Tom Cruise vienne, parce que ça fait quand même 30 ans qu'il est absent du festival. Voilà, plus de 30 ans même, Tom Cruise. Donc, ça fait plaisir un peu à tout le monde. Il y a Isabelle Adjani, elle, qui est pour le film Mascarade de Nicolas Bedos. Il y a également il y a Virginie Efira. Alors, elle va animer les cérémonies d'ouverture et de clôture. Et elle est à l'affiche du film Revoir Paris d'Alice Winocourt. Et puis il y a évidemment il y a Vincent Lindon qui est le président lui hein des longs métrages pour les longs métrages. Pierre Ninet aussi qui représente le film Mascarade également hein de Nicolas Bedos. Donc ils sont tous les deux avec Isabelle Adjani hein, Pierre Ninet dans le même film Mascarade. Dans mes petites notes, je m'emballe un petit peu. Alors, on a Léa Drucker également qui représente le film Close de Lucas Dont. Il y a Kristen Stewart qui est attendue, Léa Seydoux pour le film Un beau matin de Mia Hansen-Love, et puis il y a Adèle Exarchopoulos qui pour le film Les cinq diables de Léa Missius, et il y a Jean Dujardin également pour le film Novembre de Cédric Jiménez. On attend Tom Hanks, enfin ils y sont, j'espère, là, on ne sait pas encore, hein, parce que ce n'est que le début. Robert Pattinson, Cate Blanchett, et Vincent Lacoste, lui, c'est pour le film Fumer fait tousser, de Quentin Dupieux. Donc là, on a donc président du jury et long métrage, c'est l'acteur donc Vincent Lindon, la maîtresse de cérémonie Virginie Fira. Et la caméra d'or est représentée par Rossi de Palma, qui est présidente du jury. C'est une actrice espagnole qu'on connaît absolument. Un certain regard est représenté comme présidente, c'est Valeria Golino, qui est une actrice, réalisatrice, productrice italienne. On a la Ciné Fondation et les courts-métrages représentés par Yousri Nasrallah, qui est le président du jury. C'est un réalisateur et un scénariste égyptien. La Semaine de la Critique est représentée par Kawser Ben Amia, qui était la présidente donc du jury, réalisatrice, scénariste tunisienne. Et puis l'Œil d'Or aussi, le prix L'Œil d'Or, qui est représenté par Agnieszka Holland, qui est présidente du jury, qui est une réalisatrice polonaise. Ensuite, bon, le prix de la citoyenneté, etc. Voilà, donc on a le monde entier là qui arrive à Cannes. Beau, bah, c'est beau tout ça. Et puis cette année, le film d'ouverture s'appelle, on va en parler d'ailleurs dans les films qui sortent, s'appelle Coupé de Michel Hazanavicius. Alors il y avait un autre titre, en fait on va en parler là, j'en bégaye moi.
C'était Z comme Z.
Voilà, j'expliquerai pourquoi il a supprimé le Z et transformé le titre en Coupé. Voilà.
Voilà pour donc, Cannes donc qui a débuté et on vous donnera les résultats prochainement.
Ah ben bien sûr, ça finit le samedi 28 mai, donc on sera avec vous.
C'est ça.
Voilà, ah ben là on va pouvoir commencer à parler des films qui te plaisent aussi, Damien.
Des films qui sortent cette semaine et on commence avec un film qui s'appelle Crypto et les super animaux. Alors, de quoi nous parle ce film ?
Ah ben c'est un film d'animation à partir de 6 ans. J'ai appelé ma petite copine, moi Naya, elle m'a dit « Ah ben peut-être que mes parents seront d'accord pour que j'y aille ». Voilà, donc c'est un très joli film, c'est de l'animation, c'est fantastique, il y a de l'aventure, c'est pour la famille, c'est américain. Et c'est ils sont deux, c'est une co-réalisation. Il y a Jared Stern et Sam Levin. Alors le premier réalisateur, créateur, showrunner, il est scénariste, producteur délégué américain, il a 10 ans de carrière, 16 tournages à son actif. Et le deuxième est un réalisateur, créateur également, scénariste, acteur, il a 19 ans de carrière et 5 tournages à son actif. Pour Sam Levin, c'est son premier long métrage, Crypto et les super animaux. Crypto, c'est le super chien de Superman. Il se trouve face à un défi immense, sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d'Inde, Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d'animaux au grand cœur, mais plutôt maladroit. Voilà, voilà ce film d'animation. Moi, je le trouve très sympathique. Voilà, j'espère que ça marchera bien. Et j'espère aussi que la date ne sera pas décalée. On n'en sait rien. S'il ne passe pas là, il faut noter, on en parlera en juillet. Il passerait en juillet à ce moment-là. D'accord. La décision n'est pas encore très fixée. Enfin, c'est compliqué un peu quand même. Hein.
Pour les sorties de films, toujours. Il y en a tellement qui se succèdent.
Ah ben là, en ce moment, ouais, c'est encore très, très compliqué.
C'est ça.
Donc, on le met de côté, mais de toute façon, on vérifiera s'il est passé quand même. s'il passe là.
S'il passe pas, on vous tiendra au courant de sa date de sortie.
À ce moment-là, ce sera en juillet.
C'est ça.
Je sais parce que je suis les dates et ce serait fin juillet peut-être. Bon. Voilà.
De toute façon. Ensuite, on va continuer avec une réalisation de Serge Bozon. C'est le film Don Juan.
Oui, Don Juan. Oui, Don Juan, comédie, romance, c'est musical. Ça dure 1h40, comédie dramatique. Serge Bozon, et il s'est fait aider d'ailleurs d'Axel Rupert, qui est sa co-scénariste. Alors lui, c'est un réalisateur, scénariste, acteur. Il a 49 ans, il est français. Il a 26 ans de carrière. Il a commencé tout petit. Et puis 37 tournages à son actif quand même. Comme acteur aussi, évidemment. Il a un prix, 14 nominations. Alors, on lui doit en 2007 un film qui a eu 8 nominations et un prix, le prix Jean Vigo, qui est un très joli prix. Ça s'appelait La France. C'était un drame de guerre aussi, musical. Il y avait Sylvie Testu, il y avait Guillaume Depardieu, le regretté Guillaume Depardieu. Et ça se passait en 1917. La guerre bat son plein. Et puis, il y a Camille qui va tenter de retrouver son mari qui est sur le front. Et pour ce faire, elle se travestit en homme. Sylvie Testu, voilà, qui était l'héroïne. Et puis, en 2013, on a eu Tip Top, qui est une comédie judiciaire aussi, c'est un polar, il y a 4 nominations. Il y avait Isabelle Huppert, enfin il y a, le film on peut l'avoir, Isabelle Huppert, François Damiens, et c'était l'histoire de deux inspectrices de l'IGS qui enquêtent en province sur la mort d'un indic algérien. Alors l'une tape, nous dit-on, et l'autre mate. C'était Tip Top, très 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 beau film. Voilà, les deux films que j'avais mis de côté pour Serge Bozon. Et là, alors, Don Juan, c'est d'après l'œuvre de Molière. Hein. Tout le monde connaît, enfin, beaucoup de gens, on est beaucoup à connaître quand même, le Don Juan de Molière. Il est présenté, Don Juan, dans la sélection Cannes Première en 2022. Alors, justement, en 2022, Don Juan n'est plus l'homme qui séduit toutes les femmes, mais c'est un homme obsédé par une seule femme. Celle qui l'a abandonnée. Alors, il y a Virginie Efira, et oui, il y a Tahar Rahim, il est le Don Juan. On a Alain Chamfort, Damien Chapelle, Jenny Best dans les rôles principaux. C'est un joli casting. Alors, cette fois, nous dit Serge Bozon, je voulais un film qui soit davantage dans l'émotion en racontant juste une histoire d'amour, ce que je n'avais jamais fait. Il s'agit cette fois d'un Don Juan inversé. C'est lui qui est l'abandonné. Normalement, un Don Juan, c'est quelqu'un de victorieux, c'est un cynique, c'est un manipulateur. C'est donc ici une version féministe du mythe de Don Juan. Alors, pour les besoins du film, quand même, pour la petite histoire, Virginie Efira a appris à jouer du piano. Eh, mais oui, et Tahar Rahim a pris une cinquantaine de cours de chant, s'il vous plaît. Et Alain Chamfort, lui qui apparaît, là on est très content de voir Alain Chamfort, il joue le rôle du commandeur, le commandeur spectral et ironique dans ce film. Voilà, c'est joli, joli casting, et je pense que c'est vraiment un film qu'il fallait mettre de côté quand même. Voilà. Don Juan.
Don Juan de Serge Bozon. Et maintenant avec Koji Fukada, tu nous proposes le film « Fuis-moi, je te suis ».
Oui, oh là là, « Fuis-moi, je te suis ». Alors, c'est une romance, c'est un drame, c'est japonais. Ça dure 2h04. Et oui, tu l'as dit, Koji Fukada, qui est un réalisateur, scénariste, monteur japonais. Il a 42 ans, il a 15 ans de carrière, 10 tournages à son actif. Et le film fait partie de la sélection, enfin, il a fait partie, parce que c'était 2020, de la sélection officielle de Cannes 2020. Alors, en fait, il y avait eu... on avait parlé d'ailleurs, on en avait parlé de ce film à Radio Entre Deux Mers, qui est sorti, un film qui est sorti le 11 mai de 2000, Suis-moi, je te fuis, voilà, pardon. Alors il est sorti, Suis-moi, je te fuis, il est sorti en 2020, il a eu une nomination d'ailleurs au Festival de Cannes, La Belle Les Fidèles. Suis-moi, je te fuis, c'était le premier. Suis-moi, je te fuis. Hein, voilà, c'était entre deux collègues de bureau, le cœur de Tuji balance jusqu'à cette nuit où il rencontre Ukiyo à qui elle sauve. En fait, Tutsi, c'est une voilà, c'est une jeune femme. Elle rencontre Ukiyo, à qui elle sauve la vie sur un passage à niveau. Malgré les mises en garde de son entourage, elle est irrémédiablement attirée par celle-ci, qui n'a de cesse de disparaître. Alors voilà, ça c'était le premier. Donc, la nouvelle pépite de Koji Fukada, c'est « Fuis-moi, je te suis ». Alors, Tsuji, c'est toujours Tsuji, a décidé d'oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji. Mais cette fois, c'est lui qui a disparu. Voilà, dans le premier, elle disparaissait. Dans le deuxième, c'est lui qui disparaît. C'est toujours Koji Fukada, évidemment, qui est aux manettes. Hein. Ça a très très bien marché. Hein. Le film, en fait, est une adaptation hein, du manga The Real Thing de Moshiru Ushisato, qui est Oshisato. C'était pas Château, c'est Zato. Oshisato, qui est un réalisateur. En fait, 20 ans plus tôt, il avait été marqué par cette œuvre-là, le réalisateur Koji Fukada. Il avait été frappé par la douleur et la tristesse qu'éprouvaient les femmes, à force d'être perçues comme des abstractions. J'ai des mots vraiment un peu compliqués, là, abstraction, ben voilà. Et donc là, en fait, les deux films forment un diptyque. C'est ça, hein, le premier, suis-moi, je te fuis. Le deuxième, fuis-moi, je te suis. C'est pas évident. Alors, en fait, le premier tournait autour de la vie d'un homme, son regard sur les femmes, son prisme masculin. Et le second inverse les choses. Tout simplement, là, il s'agit des femmes. Donc, c'est vraiment assez extraordinaire, hein, quand même. Comme film, les histoires, là, ce diptyque est tout à fait passionnant. Absolument. Voilà. Donc, on peut d'ores et déjà, si on aime le cinéma japonais, si on aime cette mise en scène particulière de Koji Fukada, eh ben, il faut aller voir Fuis-moi, je te suis. Et concernant Suis-moi, je te fuis, on peut le trouver maintenant en DVD assez facilement. Donc, éventuellement, l'acheter et après essayer d'aller voir Fuis-moi, je te suis. Voilà, ça vaut le coup. Alors bon, il y a une actrice japonaise là qui joue Ukiyo, c'est Kao Tsuchimura. Et puis il y a un birmano-japonais, un acteur assez connu quand même au Japon, Win Morisaki, qui joue Tsuji. Voilà, on a Kei Ichibachi qui était dans le premier, on a Chosei Uno aussi. On pouvait les suivre déjà, là voilà, dans le premier. Ma foi.
Voilà donc pour ce film, Fuis-moi, je te suis.
C'est du beau cinéma quand même, japonais.
Et donc après le Japon, on revient en France avec une comédie de Philippe Guillard. Et ça s'appelle J'adore ce que vous faites.
Oh non, c'est trop, Damien, tu me gênes. Ah pardon, c'est le titre, excuse-moi. Je croyais que tu me faisais un compliment. Mince, ah ben je disais, tiens, il me vouvoie. Ça m'étonnait, mais bon. Comédie, bon, tant pis. C'est une comédie française, 1h31. Ben oui, tu l'as dit, Philippe Guillard, réalisateur, scénariste, dialoguiste français, il a 60 ans, il a 20 ans de carrière, 11 tournages à son actif. Alors, on avait remarqué quand même en 2010 Le Fils à Joe, le film avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. C'est l'histoire d'un père, ancien joueur de rugby, grand joueur, qui veut dans ce film, faire de son fils un joueur à son image. Mais le fils n'est pas très intéressé. Il y avait eu 2 prix, 3 nominations. On l'avait bien remarqué. Il est passé déjà à la télévision, il est repassé plusieurs fois, ce film, sur les chaînes de cinéma. Ouais, on a eu l'occasion de le voir. J'adore ce que vous faites alors que Gérard Lanvin s'apprête à tourner l'un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de la France. Son chemin croise celui de Momo Zapparetto, pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan. Et pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer. Alors, on a Gérard Lanvin, bien sûr. Bon, ben voilà, dans le rôle de Gérard Lanvin. Hein. On a Artus. Alors, Artus, c'est Momo Zapparetto, le grand fan. On a Antoine Bertrand, on a Caroline Bourg dans les rôles principaux. Laura Del Sol, oh, grande actrice espagnole. On est content de la revoir, Laura Del Sol. On a Lou Chauvin, on a Natasha Andrews. Alors, elle, c'est une actrice australienne, Natasha Andrews. Tout à fait charmante. On a Anthony Hickling aussi, qui est un acteur franco-britannique. Alors, le film a été sélectionné au Festival de l'Alpe d'Huez 2022. Voilà, j'adore ce que vous faites. Oh, écoutez, mes chéris, pour vous détendre, franchement, si vous aimez Gérard Lanvin, Artus, vous le connaissez probablement, on connaît son One Man Show, tu connais toi, Damien?
Oui, on le connaît bien, oui.
Oh, oui.
Il joue dans pas mal de films.
Voilà, exactement, il est très à l'aise un peu partout, sur scène et au cinéma. Et si, voilà, ben moi, à mon avis, pour aller vous détendre, hein, si vous avez un petit peu, comme ça, envie de rire, eh ben, j'adore ce que vous faites. Ça peut être pour vous, de toute façon, voilà.
Voilà, et maintenant on va retrouver donc le film qui a ouvert le festival de Cannes, film de Michel Hazanavicius, et ça s'appelle Coupé.
Oui, Coupé, alors que c'était effectivement le titre a changé, puisqu'au départ, même moi quand j'ai commencé à regarder un petit peu les bandes annonces, tout ça, c'était Z, entre parenthèses, comme Z, hein. c'était ça en fait. Hein. Donc... Alors, on va quand même. Il y a quand même une explication. Hein. Il l'a transformé en coupé. C'est l'histoire. En fait, Michel Hazanavicius, pardon, on le connaît, hein, réalisateur, scénariste, acteur français. Bon, il a 55 ans. Il a 29 ans de carrière déjà. 28 tournages à son actif. Il a eu 22 prix et 90 nominations. Bah oui, quand même. Il est le frère, au fait, de l'acteur Serge Hazanavicius, qu'on connaît, on le connaît cet acteur. Donc c'est l'histoire d'un tournage de films de zombies dans un bâtiment désaffecté, entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés. Seul le réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. L'irruption d'authentiques morts vivants va perturber le tournage. Alors c'est on va nous donner déjà le nom des acteurs principaux. On a Mathilda, Anna Ingrid Lutz, on a Grégory Gadebois. On les connaît presque tous en fait, hein, quand on les voit, même si on a oublié un peu leur nom, on les reconnaît si on a l'habitude d'aller au cinéma ou de regarder des films chez soi. On a Bérénice Bejo, qui est l'épouse de Michel Hazanavicius, ou depuis pas mal d'années déjà. On a Loana Bagrémy, on a Romain Duris, eh oui, on est content de retrouver Romain Duris. On a Charlie Dupont, Jean-Pascal Zadi, on a Agnès Hurstel, ah, il y a Marie Petiot, mais on les connaît, hein. Raphaël Quenard, on a Simone Hazan, on a Sébastien Chassagne, Lise Salem, tous, bon, c'est un casting extrêmement sympathique. Ils sont tous très, très bons. Alors, le film, donc, on l'a dit, hein, est présenté hors compétition, donc au Festival de Cannes, et tu l'as redit tout à l'heure, et il fait l'ouverture du festival. Il a fait l'ouverture du festival. Alors, en fait, pourquoi le réalisateur a-t-il changé le titre? Il a changé en raison du risque de confusion avec la lettre Z figurant sur les blindés russes en Ukraine, est devenu le principal symbole de soutien à l'invasion. Mon film, à la demande de cinéastes ukrainiens en plus, hein, ce qui paraissait à peu près normal, mon film, dit le réalisateur, est fait pour apporter de la joie, et en aucun cas, je ne voudrais qu'il soit associé de près ou de loin à cette guerre. Avec la suppression du Z, je suis heureux de marquer mon soutien le plus total au peuple ukrainien. Voilà ce que nous dit Michel Hazanavicius. Mon Dieu, j'allais l'écorcher, ce grand réalisateur. Alors, le film, en fait, est le remake d'un film japonais qui s'appelait « Ne coupez pas », enfin, quand on traduit, hein, qui était de Chinchiro Ueda, qui est un film d'épouvante, d'horreur, une comédie japonaise également. Donc, voilà, il a repris un peu le film japonais et ça donne « Coupé ». Mais comme on connaît Michel Hazanavicius, à chaque fois je vais me heurter, on sait que c'est du bon cinéma. Ah, je voulais absolument pas le rater pour vous le présenter quand même, mes chéris, parce que ça me semblait être quand même important. Et puis cette démarche du réalisateur est quand même très chouette, je trouve, par rapport justement à ce titre. Qu'en penses-tu, toi, Damien ?
Oui, oui, il a bien fait.
Il a bien fait, hein ? Oui, oui, oui. C'est bien. Mais c'était courageux en même temps. C'est très courageux, parce que maintenant, il risque d'être un petit peu en marge, épinglé par une certaine... Par les Russes. Il faut faire attention, il faut toujours être très prudent. Il est courageux, finalement. Tout le monde ne l'aurait peut-être pas fait, je ne sais pas. On ne sait pas. Enfin, espérons qu'il continuera à réaliser des films avec des castings tout à fait prestigieux. Voilà, voilà pour... Coupé,
donc. Maintenant, ouais. Jean-Luc Ayache nous propose le film Van Gogh in Love.
Oui, Van Gogh... Oh, c'est un joli titre, ça. Van Gogh in Love. Bah oui, ne serait-ce que le mot love. Hein. Alors, romance, c'est une romance française et belge. Ça dure 1h34. Alors, tu l'as dit, Jean-Luc Ayache, c'est un réalisateur, scénariste, producteur, délégué français. Il a été, notamment, il a été assistant réalisateur sur des films d'Edouard Molinaro. Oui, d'Olivier Assayas ou de Jean-Paul Rapneau, ben c'était pas trop mal quand même, parce que il était assistant de sacrés réalisateurs, hein. Excellent, évidemment. Alors c'est quoi ça? Ben, c'est l'histoire de Léo, qui est un artiste contemporain, qui veut renouer avec Élise, son ancienne compagne, mais Vincent Van Gogh, revenu à notre époque, en est tombé amoureux. Un triangle amoureux surréaliste se dessine et des enjeux artistiques apparaissent en arrière-plan. Pareil, là, on a un casting tout à fait sympathique. Léo, c'est Frédéric Diefenthal. Voilà, on est content de le retrouver également. Andé Kodja joue, c'est une actrice belge qui joue le rôle d'Élise. On a Steve Drissen aussi qui joue le rôle de Van Gogh. On a Marie Borg, Arsène Giroyan, et puis on a Ginny Watson dans les rôles principaux. Joli film, je trouvais, moi, qu'il fallait en parler quand même. Joli film. Jean-Luc Ayache. Bon, il a été à bonne école, hein, comme assistant. Eh ben oui, pour faire du bon cinéma. Van Gogh in Love.
Van Gogh in Love, donc, de Jean-Luc Ayache. Et maintenant, ça va être Lucas Dont que l'on retrouve avec le film Close.
Ah oui, alors voilà, je l'ai nommé tout à l'heure le film, concernant le festival de Cannes, puisqu'il est représenté. Alors je me souviens que j'ai, voilà, c'est, oui, voilà, et elle anime, elle fait partie du, alors Pierre Ninet, c'était pas lui, c'était qui pour Close, c'était Léa Drucker, qui représente le film Close de Lucas Dont, c'est bien ça. Voilà, j'ai retrouvé toutes les notes. Donc, Close, alors, Lucas Dont, il a travaillé avec le scénariste Angelo, attention, le nom, parce que c'est un T, là, Tichens. Il y a plein de S, il y a plein de J, c'est pas évident, Angelo Tichens, qui est un scénariste. Donc, alors, Lucas Dont, réalisateur, scénariste belge, il a 30 ans, il a 9 ans de carrière, 4 tournages à son actif. Alors ça, c'est son deuxième long métrage, Close, et le film est présenté en compétition, donc, au Festival de Cannes, dans la catégorie, c'est un drame, c'est romancé, ça dure 1h45, c'est belge, c'est français, et c'est néerlandais, également. Léo et Rémi ont 13 ans. Ils sont amis depuis toujours, jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre. Alors Lucas Dont, quand même, je voulais le situer, parce qu'en 2018, on en avait parlé à Radio Entre-deux-Mers, son premier long-métrage s'appelait Girl. Il y avait Victor Polster et Arié Vortalter, qui est quand même un grand acteur. C'était c'était un problème pour une jeune fille née dans un corps de garçon et qui veut devenir une danseuse étoile. Il y avait eu 3 prix, 9 nominations, dont la Caméra d'Or, meilleur film francophone, et le prix Fipretschi, quand même, un joli prix. Donc, il a, du coup, bah, il a pu réaliser son deuxième long métrage grâce à ce premier long métrage qui était très, très, très bien accueilli. Alors, dans le film, là, on a Émilie Dequesne, on a Léa Drucker, et mais oui, décidément, Léa Drucker a le vent en poupe en ce moment. On a Igor Van Dessel, on a Eden Dambrin, Kevin Janssen et Mark Weiss dans les rôles principaux. En fait, on peut dire que le film décrit l'amitié fusionnelle entre deux garçons de 13 ans qui sont soudain perturbés par leur passage à l'adolescence. Alors c'est un parcours de pardon, de vulnérabilité et d'amour. Voilà ce film Close. Très joli film. Très très joli film. Un beau casting aussi. Tout à fait.
De Luca Dante, donc. Et maintenant, c'est Jean Echez qui nous propose le film Memento Mori.
Eh oui, Memento Mori, c'est un drame français d'1h36. Mais oui, Jean Echez, alors lui, il a travaillé avec Philippe Larcher, qui est un scénariste bien connu d'ailleurs dans le monde du cinéma, Philippe Larcher. Alors lui, Jean Echez, c'est un réalisateur, scénariste, chef monteur, directeur de la photographie. Donc, il est français, il a 23 ans de carrière, il a 3 tournages comme long métrage. Il a un court métrage aussi en 91 qui a été très très bien reçu, Noir Dessin, et un documentaire en 95, Guérir la Terre, qui a également été très bien reçu. Et en 2014, il a réalisé un documentaire long métrage qui s'appelait Onde, Science et Manigance. C'était une enquête sur la téléphonie mobile. Pas mal marché aussi. C'est assez, plutôt intéressant ça. Mes chéris, si vous êtes passionnés par la téléphonie mobile et tout ce que ça peut entraîner comme plaisir et comme inconvénient aussi, eh ben il est pour vous ce documentaire. Vous pouvez le trouver en DVD Onde, Science et Manigance de Jean Echez. Moi je vous dis Ech, mais enfin on peut prononcer le S à la fin. Voilà, alors là, Memento Mori, pardon, c'est un long métrage, hein, depuis sa sortie de prison, où il a passé 21 ans. Philippe fait la manche à la gare de Wagersberg. Sous surveillance judiciaire, sa liberté ne tient qu'à la condition de son comportement irréprochable. Quand Anna, une jeune activiste en cavale, lui demande de l'héberger, son quotidien bien réglé va être bouleversé par les échos de son passé. Et c'est lui, on va expliquer d'ailleurs, hein, c'est Philippe Larcher qui tient son rôle. C'est lui qui tient le rôle dans le film. On a Ruby Minard, on a Sylvain Urban, on a Dominique Renkel, on a Alexandre Sigrist, Milan Morotti dans les rôles principaux. Alors, on peut expliquer quand même, Philippe Larcher, il est originaire de Lorraine. Il a connu la rue dès l'âge de 16 ans, en fait. Hein. À 20 ans, en situation précaire et sous l'emprise de l'alcool, il commet un triple homicide sur des camarades de Beuverie. Les motifs restent obscurs, c'est ce qu'on nous dit, et Philippe est condamné à 30 ans de détention. Il passe 21 ans en centrale, c'est ce qu'on dit dans le synopsis au départ, et puis il est souvent à l'isolement. Voilà. Depuis sa mise en liberté, il est sous le régime de la surveillance judiciaire, avec interdiction de quitter son lieu de résidence. Il vit seul dans un logement social, reproduisant une routine qui n'est pas sans rappeler celle de l'enfermement. Alors en prison, il s'est découvert une passion pour le cinéma, et plus particulièrement pour les films et les acteurs français des années 1930 à 1960. Alors en 2019, l'acteur qui devrait jouer le rôle principal dans ce film-là, dans le film Memento Mori, s'est désisté. Alors à ce moment-là, le réalisateur, c'est là qu'il a rencontré Philippe Larcher, qui faisait la manche donc à la gare. Le réalisateur nous dit, quand il m'a dit qu'il avait passé 20 ans en centrale pour un triple homicide, un an j'ai passé. Puis nous avons parlé cinéma d'après-guerre. Il m'a fallu quelques rencontres avec lui pour comprendre ce personnage atypique avec sa biographie tragique. L'idée du film sur son histoire est venue. Voilà, petit à petit, nous avons fait des essais à l'été 2019. Pouvait-il jouer avec un texte et endosser un premier rôle ? Des comédiens professionnels lui ont donné la réplique et il s'est avéré excellent. Voilà. Voilà pourquoi Philippe Larcher se retrouve dans ce film dans son propre rôle. Memento Mori. Je trouvais que c'était quand même intéressant. Finalement, ce garçon qui très jeune était bien, était délaissé, était tout seul, était bon, voilà, qui buvait beaucoup et qui a commis un truc assez horrible quand même. Hein. S'en est sorti après 20 ans de prison. Comment il arrive à s'en sortir? Il s'est passionné pour le cinéma. Tu vois, Damien, quand je dis que le cinéma est intéressant et que ça peut changer les choses dans une vie, je ne croyais pas si bien, je ne croyais pas si bien dire. Mais il n'empêche que ça va peut-être sauver Philippe Larcher, justement, le cinéma. Eh oui, le sauver, parce que quand même, c'est vrai qu'il a commis des choses horribles, mais en même temps, il a eu une vie quand même assez malheureuse depuis sa toute petite enfance. Donc, bon, hein, est-ce qu'on a droit, à une deuxième chance? C'est ce qu'on dit. Hein. Enfin, moi, je pense que tout le monde a droit à une deuxième chance. Et c'est le cinéma qui lui donne sa deuxième chance. Et c'est lui qui a aidé pour le scénario. C'est quand même extraordinaire, Philippe Larcher, finalement. Quoi. C'est, voilà. Il est, moi, je trouvais que le film pouvait être intéressant. Je pense qu'on a des auditeurs qui peuvent être sensibles à ce genre d'histoire, à ce film qui est très bien fait en même temps. Voilà. Avec un petit casting sympathique quand même, en dehors du rôle principal, des acteurs qui sont tout à fait au top.
Et ça, voilà, s'appelle donc Memento Mori. Et maintenant, oui, avec Susumu Mutsunaka, on retrouve le détecteur Conan. Et là, c'est la fiancée de Shibuya. Alors, ce n'est pas le premier détective Conan.
Ah non, ce n'est pas le premier. Alors, c'est carrément même, alors tu ne crois pas si bien dire, c'est le 25e film de la franchise, Détective Conan, 25e. Donc, c'est de l'animation, c'est policier, il y a de l'action, de la comédie, du drame, ça dure 1h50, c'est japonais, et tu as prononcé le nom du réalisateur, Susumu Mitsunaka, Susumu. Réalisateur japonais. Et puis il y a aussi, il a deux scénaristes qui travaillent avec lui, il y a Gosho Ayomana et puis il y a Okura Takahiro. Voilà, je vais me mettre au japonais dès qu'on a terminé, mais sérieusement quand même, hein, je vais m'y mettre, voilà. Est-ce que tu as compris les noms quand même, Damien?
Tout on à a fait, oui, tout à fait.
Bon, d'accord, j'ai fait ce que j'ai pu, mes chéris, hein, mais je vais m'y mettre. Et donc, oui, le 25e, comme tu disais, qu'il y en avait énormément. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est à Tokyo, hein, le quartier de Shibuya. Shibuya, donc, c'est un quartier. La fiancée de Shibuya, c'est la fiancée du quartier de Shibuya qui bat son plein pour Halloween. La détective Sato est en robe de mariée devant un parterre d'invités, dont Conan, bien sûr. Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle et le détective Takagi quand même plutôt que Guy, est blessé en tentant de protéger Sato. Il survit à son agression, mais cette attaque ravive chez Sato le souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au cours d'attentats à la bombe il y a 3 ans. Au même moment, l'auteur de ces attentats s'évade de prison. Coïncidence ? Pour venger son camarade de classe, le détective Furuya, alias Toru Amuro, part à la recherche du fugitif qui lui tend un piège. Conan retrouve Amuro avec une bombe autour du cou dans un abri souterrain. Amuro lui raconte que 3 ans plus tôt, ses camarades de l'académie de police ont rencontré à Shibuya Flamia, un poseur de bombes. Une ombre inquiétante plane sur Conan et ses amis. Le carrefour des destins s'embrase. Halloween se transforme en parade enragée. Au fond, ça parle de tout ce qui arrive, ce film d'animation, tout ce qui arrive dans la vie, en fait, dans nos vies. Hein, ces histoires de bombes, ces histoires de terroristes, et voilà, ces gens qui tuent comme ça, voilà, qui envoient leurs bombes, qui mettent une bombe autour du cou d'un homme qui voudrait quand même mettre fin à toutes ces horreurs. Enfin voilà, c'est pas si mal de. Moi, je trouvais que c'était plutôt bien même de mettre en animation des choses qu'on vit réellement, quoi. C'est pas si mal. Voilà. Détective Conan, la fiancée de Shibuya. Qu'en penses-tu, toi, Damien?
Ah ben oui, il faut voir ça, il faut découvrir sur ceux qui ne connaissent pas le détective Conan.
Ah ben absolument, le 25e quand même. Hein. C'est pas. Eh mais oui, le redresseur de tort, celui qui poursuit les méchants, les affreux.
Et nous poursuivons avec un film de Cornel Mundruszko qui s'appelle Evolution.
Eh oui, Evolution. Eh oui, c'est un drame, c'est allemand, c'est hongrois également. Ça dure 1h37. Mais Cornel Mundruszko, c'est un réalisateur, scénariste, acteur hongrois. Il a 47 ans, 21 ans de carrière, il a 13 tournages à son actif, 11 longs-métrages et 2 courts-métrages exactement d'ailleurs. Il a eu un prix, 32 nominations. Alors bon, en fait, il y avait quand même 2 films que j'avais retenus, 2014, ça s'appelait White God. Et quand on lit à l'envers, God, ça dit dog. Hein, God, ça devient dog, parce que, alors il y a eu un prix, bon, 6 nominations, un certain regard à Cannes 2014, parce que l'histoire est terrible, le gouvernement veut favoriser les chiens de race et inflige de lourdes taxes sur les bâtards. Lily, une petite fille, cherche Hagen dans toute la ville, son chien bâtard qu'elle aime. Les chiens errants, à ce moment-là, fomentent une terrible vengeance. Ils se retrouvent tous ensemble. Et il n'y a que Lily, la jeune Lily, qui peut les arrêter. Alors, White God, God Dog, voilà. C'était très chouette. Il a été très bien reçu. Tu vois, ça ressemblait un peu aux oiseaux d'Hitchcock. C'était dans la lignée des oiseaux d'Hitchcock. Ces fameux oiseaux qui viennent pour se venger. Hein, qui viennent punir les humains, ben voilà, là il s'agit de chiens errants qu'on a mis dehors et qu'on persécute. Puis en 2017, il y avait eu la Lune de Jupiter, c'était pareil, un prix, 12 nominations, à l'étrange festival, Grand Prix Nouveau Genre en 2017, c'était très chouette ça, un film social et fantastique, dont le héros d'ailleurs, entre autres, pouvait voler, hein, il s'aperçoit un jour qu'il peut voler, voilà, 2017. Ça, ce sont 2 films que vous pouvez avoir dans votre vidéothèque ou essayer de les voir, qui sont très, très intéressants. Pas mal du tout. Alors, Evolution, le film a été présenté donc en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021. D'un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre mondiale au Berlin contemporain, Evolution suit 3 générations d'une famille marquée par l'histoire. Il y a la douleur d'Eva, l'enfant miraculé des camps, qui se transmet à sa fille Elena, puis à son petit-fils Jonas, jusqu'à ce que celui-ci brise d'un geste d'amour la mécanique du traumatisme. Alors on a dans les rôles principaux, on a Lily Monori, c'est une actrice hongroise qui joue Eva, une autre actrice hongroise, Anna Maria Lang, qui joue Lena, on a un acteur allemand, Goya Rego, qui joue Jonas. Et on a une actrice allemande, Padmé Amdemir, qui joue dans les rôles principaux. Voilà. Moi, je trouvais que c'était un film dont on devait parler.
Évolution, donc. Et maintenant, on retourne à l'Est avec Takahide Hori et le morceau de Junkhead.
Oui, on retourne chez les Japonais, d'accord. C'est un film d'aventure, c'est de l'animation, hein. Science-fiction, aventure, c'est japonais, et ça s'appelle Junkhead. Alors, on va traduire, parce que c'est marrant la traduction, c'est Tête de pacotille, si on traduit ce titre. Alors, ça dure 1h41, il y a une nomination long-métrage hors compétition au Festival du film fantastique de Gérard Maire en 2022. Chouette festival, celui-là, hein. Quand on a un prix à Gérard Maire, c'est pas mal du tout. Il est interdit au moins de 12 ans. Ça, on le note. Alors, Takahide Hori, tu l'as dit, réalisateur, scénariste, acteur. Il est compositeur. Il est japonais, 51 ans. Voilà. Alors, pendant près de 8 ans, il a travaillé seul sur un film d'animation en stop motion, Junkhead, ce film-là, véritable phénomène au Japon, qui se déploie à l'international. Et oui, alors on sait ce que c'est stop motion, hein. C'est, en fait, si on traduit, c'est arrêt du mouvement, et image par image, c'est une technique d'enregistrement utilisée dans le cinéma d'animation et qui consiste à mettre en mouvement une série d'images fixes par le déplacement imperceptible à chaque prise de vue des objets ou des personnages présents dans la scène. Est-ce que ça, c'est à peu près clair comme stop motion?
C'est tout à fait clair et c'est tout à fait
voilà,
ce qui se passe.
Voilà, c'est ça. Et là, ben, il a mis 8 ans, hein, il a préparé pendant 8 ans. Alors, dans un futur lointain et à force de manipulation génétique, l'humanité a réussi à atteindre une quasi-immortalité. Cependant, elle a perdu la possibilité de se reproduire et court à l'extinction. Afin d'enquêter sur les secrets de la procréation, un homme est envoyé au plus profond de la Terre, là où vivent des clones mutants prêts à se rebeller contre leur créateur. Alors, il y a, dedans, on a les voix de Takahi de Hori, c'est-à-dire le réalisateur. On a Yugi Sugiyama. On a Atsuko Miyake, voilà, qui travaille pas mal aussi avec lui et qui sont là dans Junkhead. Je trouvais que ça valait le coup. C'est titré, quand même, une véritable folie, une pépite, un bijou, un tour de force. C'est assez magnifique, hein, quand même, comme film d'animation. Vraiment. Ah oui. Très chouette, ça.
Voilà pour les films de la semaine. Et maintenant, tu voulais nous présenter rapidement deux documentaires,
oui,
dont un premier de Lou Bureau, qui s'appelle Tranché.
Oui, Lou Bureau, réalisateur, scénariste, auteur français. Voilà, son Tranché, documentaire d'1h25. Il a eu une nomination à la Mostra de Venise 2021, long métrage hors compétition. Sur la ligne de front du Donbass, les soldats du 30e bataillon de l'armée ukrainienne affrontent des séparatistes soutenus par la Russie. Lou Bureau nous plonge dans cette expérience de guerre à hauteur d'homme et au cœur des tranchées, là où chacun doit à la fois se protéger de la mort, mais aussi tenter de recréer une normalité dans l'univers anormal du conflit. Ça tombait bien. Et puis l'autre, alors, tu voulais ?
Et le dernier, c'est Tourner pour vivre de Philippe Azoulay.
Voilà, Tourner pour vivre, Philippe Azoulay, réalisateur, acteur, chef monteur français. Ben, en 2002, on lui doit Les Feux de la Rampe, c'était avec Michel Galabru. Très, très, très joli documentaire. Alors, ça dure 1h45. J'ai retrouvé Tintin, il y a plus de 77 ans. Eh oui, il fait du cinéma et il court le monde à la recherche du sens de la vie. Durant 7 ans, nous partageons la vie d'un cinéaste et sa croyance en l'incroyable fertilité du chaos. Un voyage inédit, une aventure artistique, une expérience humaine et spirituelle avec Claude Lelouch. Alors on a, oh là là, on a dans ce film Jean Dujardin, Johnny Hallyday, Karl Lagerfeld, Francis Lai, Quentin Tarantino, Rufus, Elsa Zilberstein, Claude Lelouch, donc Anouk Aimée, Sandrine Bonner. Oula, on a Eddie Mitchell, Irène Jacob, Jean-Louis Trintignant, Alice Paul, Christopher Lambert, etc. C'est pas beau ça, tout ça. Ah, on a également, alors elle est assez extraordinaire, Sri Mata Ama. Alors son nom est terrible. C'est Amri Tanandamayi Devi. C'est une indienne, elle est indienne. On l'appelle la mère, la divine indienne. Elle est considérée comme carrément une sainte. Cette femme est extraordinaire. Dans ce film documentaire, voilà.
Et voilà pour la conversation autour du cinéma et la présentation des films qui sont dans les salles cette semaine. Merci beaucoup, Anne, pour tout ton travail de recherche et de présentation.
Ben, merci à toi, Damien, pour ton soutien, bien sûr. Et puis, ben, mes chéris, passez une excellente semaine. Je suis avec vous, je pense à vous. Essayez d'être heureux le plus possible, s'il vous plaît. Oh, mais oui, faites-moi ce petit plaisir quand même. Hein, et puis vivez le jour qui vient, le jour que voilà, du matin au soir, profitez, carpe diem, surtout, n'oubliez pas. Et puis surtout, eh ben oui, j'allais dire, n'oubliez pas. Je vous aime. Bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.